Thérapie Action, des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Walter Molondi.
Bonjour, qui est journaliste? Qui n'est pas journaliste? La Bible du journaliste congolais à fin disponible. C'est un recueil de 36 pages. Cette Bible s'appelle « Code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais ». Certains confrères et consoeurs l'ont lu, il y a des articles qui fâchent. On en parlera tout à l'heure. Élection, c'est facile à comprendre. Oui, à comprendre. Nous en parlerons aujourd'hui, l'aspect notamment du recensement électoral qui est une des grandes opérations importantes en vue de déterminer qui est-ce qui est autorisé à voter selon le droit congolais. Et puis, lutte contre la pauvreté à Goma, les agences financières de financement encouragent leurs clients à épargner davantage. C'est une façon pour eux de renforcer leur pouvoir d'achat. On parlera aussi et longuement pendant une heure de nous-mêmes aujourd'hui. Ça n'arrive pas tous les jours. Trois sujets pour ce magazine Okapi Action aujourd'hui. Vos réactions nous intéressent. Envoyez-les à action@radiookapi.net ou appelez au téléphone directement au 081 890 63 94. Jean-Claude Ntiala est à la mise en onde. Nathalie Moutieba fait la régie d'antenne. Au micro, Walter Mbairindi Moulongi. Sur 103,5. Alors, merci d'être là, de nous écouter. Nous sommes journalistes. Bon, en fait, qui est journaliste en République démocratique du Congo et qui ne l'est pas? Qui n'est pas journaliste? En fonction d'un recueil qui vient de sortir, en fait, notre Bible, on pourra répondre à la question. C'est ceux qui nous représentent qui y répondront tout à l'heure. La Bible du journaliste congolais à fin disponible, un recueil de 36 pages. La Bible s'appelle « Code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais ». L'Observatoire des médias congolais, OMEC en sigle, le distribue depuis quelques semaines à travers les rédactions siégeant à Kinshasa. Le rédacteur de ce code y précise les droits et les devoirs du journaliste. Un avocat y a même publié un article sur la problématique de la diffamation par voie de presse. Comment interpréter ce code? Pour éviter peut-être une confusion, on le saura tout à l'heure, l'OMEC publie dans ses recueils sa grille de lecture. Aussitôt distribué, aussitôt sujet à débat. Débat houleux au sein de la corporation. Suivez mon regard. On en parle en une heure dans Okapi Action. Certains collègues ont lu le code. L'équipe de Okapi Action a rencontré des professionnels des médias qui l'ont lu. Ils ont dit beaucoup de choses au micro de Sylvie Sona. Sylvie, bonjour.
Bonjour Walter.
Commençons par vous. Est-ce que vous l'avez lu?
Je l'ai lu, relu et lu.
Alors, vous l'avez ou pas?
Parce que moi, je l'ai devant moi.
Ah oui, c'est vrai. Si on était à la télé, il pourrait voir.
Je l'ai ici devant moi, comme vous le dites. Vous l'avez dit plus haut, c'est un petit livre de 36 pages, un livre jaune pastel. On retrouve dans ce code 21 articles qui énumèrent les droits et devoirs des journalistes congolais. Ce livre circonscrit également le travail du journaliste, surtout en ce qui concerne la diffamation et les imputations dommageables par voie de presse.
Alors, on l'a vu sur certains de nos confrères, et ce code, ce fameux code, a été distribué. Vous en avez rencontré quelques-uns. Est-ce que les confrères qui ont reçu ce code l'ont lu?
Je vous dirais, Walter, que certains journalistes l'ont lu, par contre, d'autres non. Certains l'ont reçu, mais n'ont pas encore trouvé le temps de le lire. Ils nous ont même dit que c'était déjà du déjà vu et du déjà lu, qu'il n'y avait rien de neuf dans ce code. Je vous invite d'ailleurs à écouter quelques-uns de nos confrères.
On doit faire reconnaître sincèrement que je ne l'ai pas encore lu et que je pense que c'est, on peut dire, jugé une faute grave de ma part parce que je ne me détache pourtant pas des livres, des journaux que je reçois régulièrement, ainsi de suite. Et là, le moindre devoir qu'on est venu nous remettre, on nous a dit d'en faire un livre de chevet. Mais pour le moins, ce n'est pas encore le cas.
Depuis que je l'ai reçu, je ne l'ai pas encore lu, j'ai juste fait une lecture en diagonale, donc juste l'introduction et une partie de la conclusion.
Oui, j'ai lu, je suis en train d'aller de les lire, j'ai lu une partie, En tout cas, j'ai lu presque la moitié des articles.
Oui, j'ai lu le code de la déontologie de journaliste.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que c'est un rappel important des principes et valeurs qui fondent notre métier, mais en même temps, ça ne suffit pas. Le code doit correspondre au contexte dans lequel nous évoluons. À quoi sert de faire une loi si, en âme et conscience, elle n'est pas suffisamment respectée? Moi, je pense qu'il y a dans ce code un rappel des principes qui sont valables par ailleurs, mais qui, en certains aspects, ne règlent pas la question. L'on dit que les faits précèdent le droit. Ici, j'ai l'impression que le droit veut précéder les faits.
Jusque-là, il faut dire que j'ai pas eu le temps de le lire. Il est vrai que il y a deux jours, il y a mon chef qui m'a fait lire juste un petit passage sur... Enfin, j'avais un reportage et il s'est fait qu'il y avait un petit problème. Il m'a fait lire un tout petit passage.
J'étais surpris d'entendre une consoeur dire que son chef lui a fait lire un passage qu'il y avait un problème vis-à-vis de son reportage. Mmh. Mais ce qui est curieux de constater, c'est qu'il y a des journalistes, des confrères qui ont reçu le code et qui ne l'ont pas encore lu. Alors, Sylvie Sona, pendant votre lecture, quel est l'article qui vous paraît le plus intéressant?
Selon moi, je pense que c'est l'article 7.
Et pourquoi?
Parce que il fait couler beaucoup d'encre de salive, beaucoup d'encre de salive Walter. Il s'agit de l'article 7, comme je voulais vous le dire, qui recommande de ne pas accepter un quelconque présent de la part des sources d'information, aucun avantage ou cadeau pour diffuser ou étouffer des informations, ni aucune gratification en raison de la publication, de la distorsion ou de la suppression d'une information. Donc, il ne faut pas accepter le coupage.
Voilà, vous l'avez bien lu. Parce que j'ai le code avec moi, vous n'avez pas dit autre chose. Mais en gros, on refuse le coupage. Mmh. Le coupage, peut-être pour ceux qui ne savent pas c'est quoi.
Ben, le coupage, c'est par exemple un journaliste qui se rend dans un lieu de reportage après avoir collecté ses informations, avant de rentrer dans sa rédaction pour traiter ses informations et les diffuser. Il reçoit un présent, ça peut être de l'argent, ça peut être lorsqu'il a été dans un champ, on lui donne des maniocs. Donc c'est un présent et lorsqu'il rentre dans son lieu dans sa rédaction, il rédige le papier, ce qu'on appelle coupage, on coupe.
Ailleurs, on parle de gombo, notamment dans la partie de l'Ouest africain.
C'est un genre de, on peut dire, un pot de vin. Je pense que c'est un peu ça.
Donc, on va peut-être écouter des confrères qui en parlent, effectivement, parce que vous avez dit que ça fait couler beaucoup d'encre.
Oui, en fait, ils ne sont pas d'accord avec cet article. Ils disent qu'il n'y a pas de nouveauté, qu'ils ne sont pas d'accord.
On va entendre nos confrères, nos consoeurs qui s'expriment sur le fameux article 7.
Disons dans un premier temps que ce n'est pas un nouvel article. C'est un article qui existe depuis toujours, depuis qu'on a rédigé les différents codes de déontologie de journalistes. Mais il se fait que de plus en plus, ces derniers temps, on revient sur cet article. Mais je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je crois que là, il y a un problème. Il y a un problème parce que si on interdit aujourd'hui aux journalistes de prendre l'argent auprès d'une source d'information, mais il faudrait se poser aussi la question de savoir pourquoi est-ce qu'on interdit, dans quelles conditions on place ce journaliste pour qu'il ne soit pas corrompu par sa source d'information. Est-ce que ce journaliste travaille dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il a un contrat de travail?
En d'autres termes, vous pensez que le fait de refuser que le journaliste puisse recevoir un quelconque présent est assez irréaliste, c'est ça?
Non, disons que c'est une utopie. C'est une utopie. C'est un article qui est placé dans ce code juste pour l'architecture, mais en réalité, c'est autre chose sur le terrain. Même les gens qui écrivent cet article-là, il faut se demander ce qu'ils n'ont pas fait.
Normalement, si on doit faire le journalisme, c'est une profession qu'on fait dans le monde entier, donc elle a des règles universelles qu'on doit respecter. Bon, le problème, en fait, ce qu'on peut dire chez nous, c'est que d'un côté, cela, on connaît le phénomène coupage, collation, tout ce qu'on veut, mot de la fin. C'est un phénomène, qui a pris de l'ampleur et que on peut mettre d'un côté sur le plan moral qui est condamnable, de l'autre côté acceptant dans le sens que les autorités, les éditeurs, les chefs d'organes ne soignent pas les causes, mais veulent plutôt guérir les effets, ce qui est contradictoire. Il faudrait plutôt améliorer le statut, conforter le statut du journaliste, sa situation, veiller à sa formation continue et constante pour qu'il ait un plus grand professionnalisme et c'est à base de ça qu'on pourra être mieux rémunéré.
Voilà, les confrères parlent des rémunérations, on le sait, le salaire des journalistes est très modique. Comment peuvent-ils vivre sans faire les extras, sans recourir à d'autres fonds? Est-ce que vous avez abordé peut-être la question avec eux?
En fait, c'est la même question qui se pose. Ils se disent comment est-ce que un code de déontologie des journalistes peut exiger, peut recommander que eux ne reçoivent pas de coupage. Or, les journalistes qui ont rédigé ce code savent que ils travaillent sans contrat, qu'ils sont sous-payés, et ils se posent cette question de savoir pourquoi. Je vous invite d'ailleurs à en écouter quelques-uns encore.
Je me dis que c'est quelque... ils sont partis vite en besogne. Parce que selon moi, je me disais qu'ils doivent d'abord commencer à bien traiter les journalistes pour arriver à l'applicabilité de cet article 7. Mais jusque-là, les journalistes ne sont pas bien traités ou bien rémunérés dans leur maison de presse. Donc, il serait difficile que l'article 7 soit vraiment appliqué.
Parlons de du fameux article 7, où on demande aux gens de ne pas accepter des cadeaux, de ne rien accepter des présents. C'est bien, c'est un principe qu'il faut défendre, mais quelle est la réalité? Quels sont les moyens que le journaliste a de travailler? Quelles sont les informations que nous diffusons sur nos chaînes, et partout, personne ne peut le contester, sont d'une manière ou d'une autre suscitées par des sources d'informations. Vous êtes dans la rédaction, quelqu'un vous appelle, écoutez, monsieur, je suis ici à Ndjili, j'ai mon atelier, il est en train de brûler, je voudrais quand même qu'on puisse finaliser ça. Ndjili, c'est très loin, écoutez, monsieur, je vous envoie un véhicule, comme ça on prend votre équipe. Vous arrivez sur les lieux pour faire les reportages. Qu'est-ce que vous faites? Il fallait déjà refuser de prendre ce véhicule, alors que vous n'avez même pas un sou pour arriver jusqu'au lieu de reportage. La réalité est celle-là. Le journaliste congolais travaille dans un contexte de pauvreté. Et ça devient même un acte presque humanitaire que certaines personnes font pour permettre à la presse de survivre. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous disons, n'acceptez pas le coupage. Le principe est bon. Eh bien, mais comment nous faisons? Est-ce que nos maisons ont les moyens de soutenir la charge qui revient aux journalistes? Je me dis qu'on aurait pu aller au-delà de la simple hypocrisie, de confirmer un principe moral qui est par ailleurs flatteur, mais qui ne résout pas la question.
Mais je suis tout à fait d'accord. Le coupage n'est pas, il n'est pas normal qu'un journaliste puisse accepter le coupage parce que cela oriente le travail d'un journaliste, influe dans le travail du journaliste. Et
ce qui veut dire que vous, ce qui veut dire que vous ne recevez pas de coupage quand faites le reportage.
Moi, je ne reçois pas le coupage.
Moi, je crois que les gens qui ont écrit ce code, ce sont eux qui ont commencé avec cette pratique. Nous, on vient à peine dans le métier, on n'a pas encore fait 5 ans dans ce métier. On a trouvé cette pratique de coupage et on suit la danse.
Justement, ceux qui l'ont écrit ont décidé d'arrêter avec ça. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est bien beau de dire aux gens d'arrêter de prendre le coupage, mais quel est le salaire d'un journaliste actuellement dans notre pays? Et puis ce coupage-là, nous ne le réclamons pas. Quand on arrive sur place, un lieu de reportage, on vous dit, attendez, on vous donne quelque chose pour le transport. Ça n'a jamais été une motivation comme ça déclarée pour dire que, tiens, je te donne ça et tu dois faire bien ton travail.
Voilà, entre nous, confrères, il faut qu'on en parle parce qu'on a besoin que le métier évolue, qu'il avance. L'article 7 fait couler beaucoup d'encre et de salive. Nous aurons tout à l'heure à avoir beaucoup plus d'interprétations avec Monsieur Polydor Mouboyaï, qui est déjà dans nos studios. Polydor Mouboyaï est le président de l'Observatoire des médias congolais. C'est lui, en fait, c'est son
C'est son
organe
institution qui a publié justement,
qui est en train de distribuer ce
qui a
code.
publié, en train de
Voilà.
distribuer ce code de déontologie des journalistes.
Et nous aurons par téléphone Monsieur Kabeya Pindipassi, qui lui est le président de l'Union nationale de la presse du Congo. Pour des raisons professionnelles, il a été appelé ailleurs, mais il a accepté d'intervenir par téléphone. Sylvie Sonard, merci beaucoup d'avoir donné la parole à nos confrères, à nos consoeurs, pour qu'ils s'expriment sur ce document très important, sur notre Bible.
Merci Walter.
On se retrouve tout à l'heure. Vos réactions nous intéressent. 081 890 63 94, action@radiocapi.net. Vous avez dit quoi?
Nous allons demander, par exemple, aux confrères qui nous suivent d'appeler, de
Mais
continuer à donner
oui,
leur point
tout
de vue
à
sur
fait.
la question.
On est d'accord. On est d'accord, les confrères peuvent appeler. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Maintenant, il y a une Bible, notre Bible, qui est en train d'être distribuée dans certains organes de presse. Alors, vous êtes journaliste, il vous arrive de réfléchir sur votre, notre métier. C'est un symptôme de bonne santé nous dit-on. Mais vous êtes encore aux études et vous vous posez des questions sur votre avenir comme journaliste. En fait, vous vous demandez probablement si vous avez un avenir en devenant journaliste. Vous n'avez rien à voir avec ce métier, mais vous êtes de ceux que le journalisme fascine, intrigue ou parfois dérange ou horripile. Vos réactions nous intéressent. Sur ce sujet-là, appelez au 081 89 063 94 ou envoyez un message, email ou un SMS à action@radiookapi.net. En attendant vos appels, nous allons recevoir nos invités. Okapi Action, des conseils pratiques, des solutions à vos préoccupations. Okapi Action, du lundi au vendredi de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Walter Molondi. Invité en direct en studio, Monsieur Polydor Mouboyayi Moubanga, président de l'Observatoire des médias congolais. Bonjour. Bonjour. C'est la première fois que vous venez dans ce magazine Okapi Action et pour parler de notre métier. Par téléphone, il interviendra en direct aussi M. Kabeya Pindipassi, président de l'Union nationale de la presse du Congo. Il n'est pas encore en ligne, mais on commence avec vous, M. Polydor Mouboyayi. Je dois dire que vous êtes aussi éditeur du journal Le Phare. Le phare comme lumière, hein. Le phare d'Alexandrie, on se rappelle l'histoire de l'Égypte. Mais bon, phare comme organe de presse, de la presse écrite. Un code de déontologie et d'éthique du journaliste congolais, maintenant, pourquoi?
Ce code, je crois que il tombe à un moment crucial de l'histoire, à la fois de la presse nationale, et l'histoire en général de la République démocratique du Congo. L'histoire de la presse, parce que vous savez que la presse dans ce pays prend une part active à l'évolution de la situation politique et que après avoir contribué de façon décisive, il faut le souligner, à la matérialisation des négociations politiques intercongolaises à Sun City, cette presse-là est de nouveau sollicitée. Elle est sollicitée, elle-même se met à contribution pour la réussite du processus électoral qui va bientôt démarrer si le Parlement en finit avec les lois essentielles dont il doit doter la CEI. Un moment important pour la République elle-même parce que bientôt nous nous engageons, comme je le disais tout à l'heure, toujours dans ce processus électoral qui est appelé à doter le pays d'une direction sortie des urnes, de manière à mettre fin à la fameuse crise de légitimité qui mine l'action des gouvernements successifs depuis que la transition a démarré dans ce pays, il y a de cela 15 ans. C'est donc un moment important, un moment, je dirais, historique entre guillemets, parce qu'il nous donne à nous, hommes des médias, hommes et femmes des médias, la possibilité de contribuer de manière décisive à l'avènement d'une république que nous voulons réellement démocratique.
Alors, Monsieur Polydor Mouboyayi, il faut présenter ce code en disant qu'il y a d'abord la lettre de l'OMEC qui présente le code, qui circonscrit le contexte, évidemment. Il y a un avant-propos qui rappelle le Congrès national de la presse. Et il y a le code en soi, hein, cette série d'articles qui répertorie les droits et les devoirs du journaliste à 21 articles. Et puis, il y a la grille de lecture de l'OMEC. On va en parler tout à l'heure, mais quelque part dans la lettre que vous signez, vous, M. Polydor Mouboyayi, vous dites quelque part que un signal fort, je cite, destiné à rappeler que la cueillette et le traitement de l'information ne sont pas une affaire d'amateurs. Ceux qui s'y adonnent doivent avoir constamment à l'esprit une seule préoccupation, les règles, encore et toujours, les règles, ainsi de suite. Est-ce que ça veut dire que vous avez l'impression qu'il y a des loups dans la bergerie, dans la corporation, il y a des gens qui font ce métier, qui ne sont pas journalistes? En fait, la question, qui est journaliste?
qui est journaliste. C'est défini dans la loi 81/012 du 2 avril 81. C'est tout celui qui s'adonne à la cueillette, au traitement, à la diffusion de l'information et qui en tire l'essentiel de son existence.
Oui, oui.
Donc ça, c'est une définition de la loi.
Voilà, de la
loi. Et vous m'avez posé la question, pourquoi on en est là? Effectivement, j'ai signé cette lettre, l'OMEC. Vous savez, si le congrès dit de refondation de la presse nationale a estimé nécessaire de doter la profession d'un observatoire des médias, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un constat.
Lequel?
Ce constat, c'est qu'il y avait de plus en plus de dérapages. De dérapages qui manifestaient soit l'ignorance, soit le manque de maîtrise des règles fondatrices de la profession du métier d'informer. Il fallait donc veiller à restaurer le respect des règles. Parce que c'est par le respect des règles que le journaliste existe, que le journaliste parvient à s'exprimer en toute indépendance, en toute dignité.
On va y arriver. On signale que M. Kabeya Pindipassi, président de l'Union nationale de la presse du Congo, est en ligne, disponible maintenant. M. Kabeya Pindipassi, bonjour.
Et bonjour.
Merci d'avoir accepté d'intervenir malgré les occupations qui sont les vôtres maintenant. Nous parlons de la Bible, notre Bible, le code de déontologie des journalistes en République démocratique du Congo, qui est en train d'être distribué dans certains organes de presse. Vous, en tant que président de l'Union, notre corporation, comment appréciez-vous, je veux dire, la distribution et la disponibilité de ce code actuellement?
Avec la distribution de ce code fait partie donc de l'engagement que les différents animateurs des composantes des médias ont pris au Congrès national de la presse. C'est-à-dire que, effectivement, comme le disait M. le Président Paul de Mboyaï, il y a un souci de professionnaliser le métier. Il y a un souci d'améliorer la qualité. Et comme moi, je l'ai soutenu à plusieurs reprises, j'ai l'impression que parfois, les autres corps de métier, les autres composants de la société globale au Congo, notamment, je dirais, les politiques et même le gouvernement, les institutions nationales, n'ont pas beaucoup conscience de la nécessité d'avoir une presse véritablement compétitive et véritablement professionnelle. Dans ce siècle du 21e siècle, qu'on appelle le siècle des médias, il n'est pas normal qu'une telle distraction puisse être constatée et sans que le pouvoir public, notamment, puisse réagir. C'est une responsabilité énorme que d'avoir un système d'information qui fonctionne et qui fonctionne de manière professionnelle. Et donc, pour nous, ces premiers gestes, c'est un premier geste ou l'un des premiers gestes dans le sens de la mission qui doit être la nôtre pendant notre mandat, c'est-à-dire d'initier des actions pour que d'abord les journalistes puissent connaître les règles du jeu, puissent connaître les normes de leur travail. Il y a donc l'OMEC qui est en train de donner cette Bible. Il y a déjà aussi, en ce qui concerne l'UNPC, des sessions de formation des formateurs aujourd'hui. Mais également, d'ici, je dirais, 2-3 semaines, il y aura la formation à domicile, c'est-à-dire l'échange des journalistes qui doivent venir, par exemple, de l'intérieur, que nous devons greffer dans pas mal de rédactions pour qu'ils puissent, là aussi, se pénétrer des normes de travail. Et enfin, il y a la formation classique qui est dispensée notamment dans les facultés. Donc tout cela, effectivement, concourt à l'intensification des efforts pour une plus grande professionnalisation du métier d'informé au Congo.
Alors, je sais que je ne devrais pas vous prendre beaucoup trop de temps parce que vous êtes dans l'auditoire, vous étiez en train de dispenser un cours, mais je vais sauter sur une question qui fâche presque, qui est sujet à polémique. Certains confrères, consoeurs qui l'ont lu, l'ont lu. Il y en a qui ne l'ont pas encore lu, quand bien même ils l'ont déjà. Mais c'est l'article 7, au fait, qui suscite beaucoup de réactions. Je la relis. n'est pas accepté en quelconque présent de la part des sources d'information. Aucun avantage ou cadeau pour diffuser ou étouffer des informations, ni aucune gratification en raison de la publication, de la distorsion ou de la suppression d'une information. Fin de citation. Alors, j'ai en face de moi M. Polydore Mouboyaï. On a entendu des confrères et des consoeurs s'exprimer sur cette question-là précisément. On parle ici du coupage ou du gombo, selon qu'on est en Afrique de l'Ouest. Cette disposition fâche. Et il y a un confrère qui a dit, je cite, on attaque les effets, on ne cherche pas à gérer les causes qui ont conduit à ça. Quelle est votre lecture, vous, M. Kabeya Pindipassi, de cette disposition et son application?
Ben, je ne sais pas si je dois en faire une lecture particulière. Cette disposition est tout à fait compréhensible d'elle-même. Cette disposition n'a pas été inventée par le Congrès national de la presse. C'est une disposition qui est tout à fait universelle dans le code de déontologie du métier d'informé à travers le monde, sauf évidemment au Zimbabwe où il n'y a pas de code de déontologie. Enfin, peut-être qu'il y en aura un dans les années à venir, mais c'est une disposition qui est tout à fait universelle. C'est une disposition qui participe de la nécessité d'imposer l'indépendance du métier d'informé, l'indépendance ou l'impartialité du journaliste, n'est-ce pas? Si le journaliste doit être manipulé par les sources, alors l'information qu'on nous donne ne reflète pas la véracité. C'est une information qui est tout à fait tronquée. Alors, pourquoi cela doit donner matière à discussion? Je ne vois même pas de quoi on discute. Hein? Est-ce que le journaliste doit donner la vérité? Oui, s'il doit donner la vérité, il doit la donner en toute indépendance et en toute impartialité. Et c'est pour ça que il lui est demandé, n'est-ce pas, d'éviter des présents de la part des sources, des présents capables de l'influencer dans le traitement d'informations. C'est des choses qui sont parfaitement claires à mon sens. Je ne sais même pas de quoi on discute.
Mais on discute par rapport au contexte, ceux qui se sont exprimés, qui disent « ventre affamé n'a point d'oreille », j'allais dire « la plume glisserait mieux quand on écrit » ou « le rendement à l'antenne serait meilleur quand les doigts auront été bien graissés ». Et ils disent que le journaliste aujourd'hui, le reporter, pour prendre ce cas-là, n'a pas suffisamment de moyens à sa disposition pour aller à la source de l'information pour se déplacer.
Oui, ça me fait sourire. Hein. Écoutez, il faut savoir ce qu'on veut.
Oui.
Il y a un métier dans le pays congolais qui paye largement mieux que le métier d'informé. Si des confrères voudraient avoir des revenus plus substantiels que ceux que nous sommes capables de payer aujourd'hui, à cause justement des contraintes, des contextes, ben qu'ils changent de métier. Ils sont libres finalement. Ils sont libres. Vous ne pouvez pas venir dans l'armée et commencer à dire que non, vous êtes témoin de Jéhovah, vous ne pouvez pas faire le salut au drapeau. Non, vous devez savoir ce que vous voulez. Vous êtes militaire, le matin il y a salut au drapeau. Hein? Si vous pensez que vous êtes témoin de Jéhovah, vous ne pouvez pas saluer le drapeau, vous quittez l'armée. Vous êtes un homme libre. Il en est de même pour les journalistes qui viennent travailler chez nous. S'ils pensent que, effectivement, les revenus que nous sommes capables aujourd'hui de donner en contrepartie ne sont pas suffisamment viables, mais il y a des secteurs comme la téléphonie qui payent largement mieux. Ils peuvent bien s'exprimer là-bas. Il faut, quand vous venez chez nous, vous devez savoir respecter les règles du jeu. Moi, j'ai toujours soutenu que le métier d'informer n'est pas une profession. C'est une religion. C'est une religion et il y a une doctrine que nous dispensons. Ceux qui viennent dans ce métier doivent savoir appliquer cette doctrine. Quand vous entrez dans une église catholique, que vous voulez traverser la nef de l'église, eh bien, vous devez faire la génuflexion au milieu de l'église. Vous ne devez pas demander pourquoi. Vous devez savoir que c'est comme ça. On n'en discute pas. Il en est de même du métier d'informer.
Monsieur Poli, ouais,
les conditions de travail sont difficiles. Mais ces conditions de travail, comme vous l'avez dit, sont liées au contexte général. Pourquoi voulez-vous que les métiers d'informer, donc les médias, puissent se trouver être des îlots de prospérité dans un pays complètement à la déglingue? Mais non, les médias sont traversés par la crise qui affecte le pays tout entier. Et donc s'il y a des transformations qui s'opèrent à gauche et à droite, qui s'opèrent dans tel ou tel secteur, ça finira par contaminer les métiers d'informer. Nous avons des politiques de promotion des médias. Il y a le système de télé-impression que nous sommes en train de mettre en route, qui va essayer d'augmenter les revenus. Et il y a le système des bouquets qui est déjà opérationnel dans le secteur de l'audiovisuel, qui va augmenter les revenus. Et donc, progressivement, nous allons aussi avoir des revenus suffisamment viables. Donc, je crois que c'est un travail qui va se faire progressivement, n'est-ce pas? Mais on ne doit pas prendre l'exception pour la règle.
Tout à fait. Monsieur Kabeya, je vais vous laisser entendre la réaction de Monsieur Polydore Mouboyaï sur cette question. Monsieur Polydore Mouboyaï.
Oui, je partage entièrement le point de vue du président de l'Union nationale de la presse du Congo. Je la partage d'autant que il me semble que ne poser que le problème de la presse, ignorer l'environnement général dans lequel nous vivons, ignorer que si aujourd'hui la RDC se retrouve dans ce cercle de pays pauvres très très endettés, c'est tout simplement parce que la pauvreté est devenue un fait général dans notre pays. Si aujourd'hui les journalistes, les communicateurs estiment qu'il doit bafouer les règles de la profession, qu'il doit baser sa vie sur des faits de corruption, mais que diraient les villageois congolais? Que dirait l'enseignant congolais? Que dirait le fonctionnaire congolais? Nous sommes dans un contexte général de pauvreté. Et je voudrais rappeler que le journaliste, lorsqu'il arrive dans ce métier, il s'engage à servir l'intérêt général et à fournir à l'opinion une information exacte, libre, honnête et complète. Il s'engage à ne jamais rien avancer sans être en mesure d'en apporter la preuve, à bannir le mensonge, l'altération des documents et la déformation des faits. Rien que ces deux engagements-là, entre plusieurs, ça place tout celui qui accepte le métier d'informer en porte-à-faux par rapport à la fameuse revendication concernant l'article 7. L'article 7 est un article tout à fait normal. Il est vrai qu'il y a des problèmes. Ces problèmes-là, il faut les poser autrement. C'est-à-dire que aussi bien l'UNPC, l'OMEC que d'autres structures de la profession, en tout cas, nous nous sommes engagés à obtenir de l'État qu'il remplisse sa part du contrat par rapport à notre métier. Bien. Nous avons une loi et cette loi n'a jamais été exécutée. Nous demandons qu'en face, tous ceux qui tiennent à une pratique responsable du métier d'informer puissent exécuter cette loi et essayer d'une certaine manière de diminuer notablement les charges des entreprises de manière à permettre à ces dernières de disposer de moyens nécessaires, de moyens pouvant être redistribués. Ça, c'est tout un autre problème. Si je ne pense pas qu'on aura suffisamment de temps pour...
On a pris la mesure du sujet, on a réservé... On en a encore pour une bonne vingtaine de minutes. Je ne sais pas si M. Kabeya Pindipassi sera toujours en ligne. Mais l'autre question, M. Kabeya qui est toujours en ligne, par rapport à ça, certains confrères nous disent les patrons des médias roulent carrosse, les journalistes restent quado. Bon, une expression pour nous désigner entre nous. M. Kabeya Pindipassi.
Oui, les patrons roulent carrosse et les quado.
Les journalistes restent quado. Les patrons des médias roulent carrosse et oui. Les autres journalistes restent des quado.
Oui, cela est tout à fait, n'est pas extraordinaire. Je crois que la société est comme ça. Dans la société, il y a des riches, il y a des pauvres. Il y a même des journalistes qui roulent carrosse alors qu'il y a des patrons de presse qui sont à pied. Hein? Je crois que cela est aussi tout aussi visible. Mais cependant, si à travers cette préoccupation, on veut exprimer un souci d'un meilleur partage, une meilleure distribution des revenus réalisés par l'entreprise de presse, oui, je crois que cette préoccupation est assez pertinente. C'est pour cela qu'actuellement, il y a une commission spéciale chargée de contrats de travail. Qui est à pied d'œuvre et qui va rendre son rapport, je crois, d'ici 2 mois maximum.
Mais oui, c'est là
donc, qu'on... à partir de cet instant, d'ici 2-3 mois, chaque entreprise devra avoir des contrats de travail avec, disons, entre employeurs et employés. Il faudra qu'ils soient liés par un contrat de travail. Donc, vous voyez bien que ça bouge. Vous voyez bien qu'il y a un certain dynamisme qui s'est imposé depuis bientôt une année et que nous sommes en train d'opérer des transformations qui vont être bénéfiques aux uns et aux autres. Donc, il n'y a pas de raison de considérer on doit sortir nu parce que voilà on n'a pas de bons habits. Hey, non, hein? Et je crois qu'il faut prendre le sens de la mesure. Nous sommes parfaitement conscients effectivement du fait que les revenus parfois dans certaines entreprises, il est vrai, ne sont pas bien distribués. C'est pour ça que le Congrès nous a imposé de faire signer ce contrat de travail. Est-ce qu'on a un travail et déjà en cours d'élaboration d'ici 2-3 mois, il va être opérationnel. dans certaines entreprises comme la mienne. D'ailleurs, je crois que c'est d'ici 2-3 semaines que ce contrat sera signé.
Précisons.
Donc, vous voyez, il y a un élan que nous avons pris. N'oubliez pas que quand même la gangrène a pris au moins 15 à 20 ans dans la profession et que nous n'allons pas la décanter comme ça à partir de la première pelletée. C'est un processus et différentes structures des médias au Congo sont en train de travailler, chacune dans son couloir, pour donc arriver à un succès dans cette transformation. D'ici 3 ans, nous allons rendre compte au Congrès, nous allons nous retrouver, on fera un premier bilan. Ce ne sera peut-être pas tout à fait rose à cause des difficultés que nous avons à pouvoir mobiliser les ressources pour que nous puissions réaliser les plans d'action et accomplir nos aspirations. Mais au moins, le gros du travail, j'en suis parfaitement certain, sera déjà abattu.
Voilà. En parlant de votre entreprise, je tiens à préciser auprès de nos auditeurs que vous êtes administrateur, directeur des programmes d'une chaîne de télévision qui s'appelle Canal Tropical Télévision, qu'on dit bien souvent Tropicana TV. Donc, des réactions des auditeurs, Dominique Kanongue de Lubumbashi, qui réagit comme suit, je cite, « Le journalisme est un métier très noble et les journalistes doivent au préalable être bien rémunérés. En ce moment, le journaliste fera un bon travail avec le courage et sincérité. Je vais vous laisser écouter d'autres auditeurs que nous avons enregistrés il y a quelques instants.
Je m'appelle Pierrot Camon et je suis à Lubumbashi. Je voudrais savoir si le code en question a été élaboré par qui et quand. Puisque l'article 7 dont vous parlez, réellement sur terrain, nous voyons des journalistes qui se font corrompre gratuitement. Ils sont clochardisés. Il parle de primes de collation, il parle de primes d'encouragement. C'est tout ça dans le but de colorer ce qui est sombre. Il y a tant d'exemples, mais le tout récent, c'est le cas de la Régie des Eaux et de la Somica. Je sais que Radio Okapi avait organisé en son temps une émission sur ça. Et il y a certains journalistes qui avaient parlé puisqu'ils avaient un maigre salaire et qui voient que c'était la collation en question. Il y a ceux-là qui avaient refusé. Mais toutefois, je vous demanderai à ce que la déontologie en question soit appliquée par tous les journalistes dans le vrai sens. Je voudrais un peu vous dire sur ça.
Bien, voilà. Monsieur Kabiapini Passi, une réaction à cette réaction de l'auditeur de Lubumbashi.
Mais je n'ai pas très bien suivi la teneur donc de la deuxième intervention. La première intervention insiste sur la nécessité d'accorder des revenus viables au métier d'informé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce journaliste, j'espère que c'est un journaliste.
Non, c'est un auditeur.
Mais comme j'ai dit, effectivement, nous sommes en train d'y travailler, mais nous allons y travailler, nous allons réussir dans les limites des possibilités qui s'offrent à nous. S'agissant des facilités à accorder aux entreprises de presse, n'oubliez pas que depuis la semaine dernière, le ministre de la Presse et de l'Information, Henri Mova, a saisi plusieurs de ses collègues, notamment des PTT, des finances, du budget, du tourisme, etc. pour essayer effectivement de trouver des textes cette fois-ci, des textes d'application de l'article 17 et 18 de la loi sur la loi donc 87-3002. Et donc nous sommes dans un processus, très bientôt les négociations vont s'engager pour essayer un temps soit peu d'accroître les moyens d'intervention, donc des moyens, disons, les moyens d'action des entreprises de presse. Alors, je n'ai pas bien suivi la deuxième préoccupation. Peut-être que M. Polydor Mboyaï pourrait y répondre, Walter. Merci beaucoup.
Oui, tout à fait, Polydor.
Oui, le deuxième intervenant de Lubumbashi voudrait savoir qui a rédigé l'article 7. Le code remonte à quand et qui en sont les rédacteurs. Bon, la question est toute simple. Hein. Mm-hmm. Le code est le fruit du congrès de refondation de la presse congolaise qui s'est tenu il y a exactement un an au centre Nganda. Ce sont donc les professionnels des médias eux-mêmes venus des quatre coins du pays qui ont estimé qu'il fallait délimiter le territoire des médias. Et le délimiter, c'est rappeler les règles qui fondent le métier, c'est rappeler les valeurs morales, si vous voulez, les valeurs éthiques. C'est donc les professionnels eux-mêmes qui ont rédiger ce code. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils estiment qu'ils exercent un métier qui mérite d'être révalorisé, recrédibilisé. Nous sommes donc dans ce processus-là. Quant au dérapage qu'il a cité tout à l'heure, s'agissant de la question de la Sominka.
Oui, le fameux dossier.
Eh bien, c'est, encore une fois, c'est ce genre de travers qui justifie plus que jamais l'avènement de ce code, qui justifie plus que jamais la campagne de vulgarisation que l'Observatoire des médias congolais est en train de mener en ce moment. Mmh. Et la distribution de ce code, je souligne, parce que tout à l'heure,
on l'a fait dit, d'abord
dans certaines maisons de presse,
oui.
Non.
Mmh.
Ce code va être distribué à tous les professionnels des médias indistinctement et gratuitement sur l'ensemble du territoire national.
Disons passant que celui-ci, je l'ai eu par des voies.
Nous ne sommes pas, encore passés à aucun pays,
oui, oui.
Mais je pense que très probablement la semaine prochaine, nous serons là. Ce travail-là, nous devons le faire. Chaque professionnel de médias recevra gratuitement un exemplaire du code.
Et nos confrères en province.
Tout le monde, après avoir fait ce travail-là au niveau de Kinshasa, nous allons nous déployer dans toutes les provinces du pays.
Mmh.
Nous ferons le même travail, rassurez-vous.
Okay. Alors, on va écouter d'autres confrères qui se sont prononcés sur certaines dispositions. Ici, Jean-Claude Siala, si on peut écouter des confrères et des consoeurs qui en parlent.
Recevoir un présent,
un coupage
entre guillemets, c'est vrai, il est vrai que bon, c'est encore un truc à revoir, hein. c'est quand même assez délicat.
Délicat pourquoi, expliquez-nous.
Bien, c'est vrai, il est vrai que bon, il y a des fois où on reçoit des coupages, ça n'influe pas sur l'information que nous sommes tenus à donner. Mais il se fait qu'il y a des fois où ces gens-là qui vous donnent enfin, un coupage que nous estimons être un moyen de transport ou, et tout ça, un déplacement, eux attendent de ce coupage, je sais pas moi, une information, voilà, une contrepartie. Et c'est un peu délicat, c'est dans ce sens-là que je dis que c'est un peu délicat. Mais bon, c'est vrai, je pense qu'il faudrait que dans l'avenir, que nous puissions essayer de revoir ce cas-là, que notre pays, enfin, que l'UPC ou je sais pas moi, ceux qui s'occupent de la presse, puissent essayer d'étudier ce problème-là. C'est un peu délicat.
Voilà, c'est par respect d'avoir brandi le micro à notre consoeur qu'on a diffusé cette réaction, parce que les réponses ont été données, aussi bien par Kabea qui intervient par téléphone et par vous, Monsieur Polydor Mouboyaï. On va évoluer sur notre débat. La question est celle-ci, Kabea et Polydor. Et si un professionnel des médias viole les dispositions de ce code, qu'advient-il? Kabea, il n'est pas en ligne, hein? Ah, on l'a perdu. On va peut-être essayer de le retrouver. Moi aussi, Polydor Mouboyaï. On a ce code, c'est notre Bible. Et si moi, Walter, je viole les dispositions de ce code, qu'est-ce qui arrive?
Bien, vous savez, c'est là le travail de l'Observatoire des médias congolais. De traquer les atteintes à l'éthique et à la déontologie de notre métier.
Mmh.
Nous disposons là d'une équipe d'observation qui fait ce travail-là de façon quotidienne. Et si nous constatons qu'il y a un certain nombre d'atteintes, nous allons les relever. Non seulement les relever, mais nous allons aussi les dénoncer. En les dénonçant, ce n'est pas qu'on va le faire entre les quatre murs. Nous allons les dénoncer par voie de presse. On va publier un communiqué. Walter, qui est un journaliste connu, épinglé une fois, épinglé deux fois, épinglé trois fois. Je crois que même la maison au tapis va se dire, non, mais je crois qu'il est en train de perdre en crédibilité. Il ne faudrait plus qu'il passe au micro.
Déjà à l'intérieur.
Donc vous aurez déjà des problèmes au niveau de votre propre maison.
Mm-hmm.
Et au niveau du public, l'information que vous diffusez va perdre en crédibilité aussi.
Mm.
Parce que qu'est-ce que c'est que ce journaliste qui régulièrement est épinglé sur le plan déontologique, est épinglé sur le plan éthique.
Mm-hmm.
Ça, c'est un premier niveau.
Mm-hmm.
Le deuxième niveau, lorsqu'il y a de cas graves qui sont relevés, ces cas peuvent conduire au retrait pour une durée déterminée ou au retrait définitif de la carte professionnelle.
Ah,
ah oui. Et en ce moment-là, l'Observatoire, qui n'a pas dans ses attributions la gestion de la carte professionnelle, s'adresse à la commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo. Avec avis motivé, l'Union nationale de la presse du Congo au niveau de sa commission de discipline, siège et transmet le dossier à la commission de la carte qui décide du retrait pour une durée déterminée ou de façon définitive. Et vous vous rendez bien compte qu'un journaliste à qui on a retiré la carte de presse de façon définitive, on l'a tué. Il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau-là. C'est pour cette raison-là que nous sommes en ce moment ici dans une phase pédagogique où nous diffusons davantage les règles, nous invitons tous les amis à les intérioriser de manière à ne pas tomber dans ce type de travers-là.
Monsieur Poudoumboué, en lisant ce code, je l'ai relu plusieurs fois depuis 2 semaines. J'ai beaucoup aimé une phrase que vous avez écrite. Je cite, « Un journaliste incarcéré est un héros en devenir, alors qu'un professionnel des médias frappé par ses pairs ressent durement la sanction. » Ça, j'ai beaucoup aimé. Et Kabea Pindipassi est en ligne. Monsieur Kabea, en fait, la question a été que si un journaliste violait les dispositions du code, qu'adviendrait-il? Monsieur Poudoumboué nous disait que ça peut aller, la décision peut aller juste jusqu'au retrait définitif de la carte professionnelle, c'est-à-dire à la mort sur le plan professionnel. Je relis ce que Polydor a écrit en présentant notre Bible ici. C'est vous, M. Kabea, qui avez au sein de la corporation la commission des disciplines. On pose là la question de la carte de presse. Où est-ce qu'on en est au fait? Est-ce qu'on a une nouvelle carte? Et comment votre commission des disciplines procéderait-elle pour... poursuivre, si vous voulez, le confrère ou la consoeur qui fâcherait le code?
Oui, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, le code a été élaboré pour éviter les travers, pour éviter toutes sortes d'abus qu'on a enregistrés ces dernières années dans la profession. Première chose. La deuxième, c'est que, oui, effectivement, nous avons tout un arsenal de mesures disciplinaires. On peut appliquer en droit d'un journaliste. On peut le blâmer, on peut le suspendre, mais on peut également l'exclure temporairement donc ou définitivement de la profession. C'est pour cela d'ailleurs que nous avons soutenu la campagne actuelle vers la dépénalisation des délits de presse. Nous avons toujours dit que, effectivement, les personnes qui se sentent lésées ont tout avantage à s'adresser à l'Observatoire des médias pour déposer leur plainte. Parce que ce processus de dispenser la justice à l'intérieur de la profession est beaucoup plus efficace, ou devrait être beaucoup plus efficace, en principe, avec la coopération de tout le monde. Nous avons des peines beaucoup plus lourdes que nous pouvons prononcer à l'endroit des hommes des médias que ne peuvent le faire les tribunaux, le cours des tribunaux traditionnels. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas condamner un journaliste à mort pour une infraction, donc, soit à la loi, soit au code de déontologie, pour un délit de presse, on ne peut pas condamner à mort un journaliste. Or, nous pouvons le condamner à mort en lui retirant la carte de presse, donc en lui interdisant d'exercer, effectivement, ce journaliste est mort professionnellement. Et ça, le parquet, le tribunal traditionnel ne peut pas le faire. Alors, maintenant, oui, est-ce que nous pouvons vous poser la question, comment nous allons procéder? Ben, nous sommes en train de mettre les choses toutes complètement au point. Peut-être qu'ici, maximum 2 semaines, tout devrait être beaucoup plus clair. Il était d'abord nécessaire que les journalistes puissent connaître le code de déontologie, c'est l'opération qui est en train de dominer l'OMEC, afin que, comme on dit, que nul n'en ignore. Voilà. Donc, nous n'allons pas commencer à prendre des sanctions si le journaliste ne connaît pas le commandement.
Okay.
Deuxièmement, la carte d'identité professionnelle, où est-ce qu'on en est, vous me demandez, eh bien, vous savez que pour que la commission de la carte puisse donner son avis, favorable ou défavorable, on a besoin d'abord, dans un premier temps, de l'avis du comité provincial de l'UNPC. Jusqu'au mois de janvier dernier, on n'avait pas de comité provincial à l'intérieur du pays. Maintenant, nous avons déjà installé ce comité dans l'ensemble des régions de l'Est et même dans les deux Kassai. La semaine prochaine, nous entamons la campagne vers l'Ouest avec le Bas-Congo. Et donc maintenant, nous pouvons envoyer les fiches d'identification professionnelle des médias qui feront office donc de demande de la carte d'identité professionnelle. Mmh. Et donc, ces comités provinciaux vont donner leurs avis. Et à la suite de ça, peut-être, je crois, dans un mois ou deux, les premières cartes pourront sortir.
Très
voilà
bien.
Ce que je peux dire.
Ok. Il y a une question qui vous est adressée directement par un auditeur qui s'appelle Robert Mbaki. Il voudrait savoir quel est l'impact de la redevance sur la situation générale des journalistes en République démocratique du Congo. Si c'est possible, en une minute, on va essayer l'exercice.
Bon, la redevance avait été instituée par une loi qui n'a pas été abrogée. Mais sur le terrain, la pratique a rencontré beaucoup de difficultés, notamment en ce qui concerne la collecte de l'argent. Je sais que au moins deux députés sont en ce moment ici de proposer une réforme de la loi sur la redevance en faveur naturellement de la radio-télévision nationale congolaise. Et cela devrait permettre effectivement au secteur public d'accroître aussi les revenus de ce secteur. Voilà ce que je peux dire assez brièvement. Donc la loi reste à être, demande une actualisation, mais je sais aussi que le Congrès voulait, au-delà de ça, demander que ce soit un moyen d'assurer davantage l'aide à la presse. Bon, le débat se poursuit et je crois que d'ici quelques mois, on pourra être fixé.
Très bien, Kabi Apendi Passi, vraiment merci, merci beaucoup d'avoir suspendu momentanément le cours que vous étiez en train de dispenser aux futurs journalistes pour répondre aux questions des professionnels des médias qui exercent déjà. Tout le bonheur a été pour nous de vous entendre, d'écouter vos réponses. Merci encore une fois et bonne suite de votre sacerdoce d'enseigner. Merci. Merci Kabea. On va prendre le flash dans quelques instants. Restez branchés. On va conclure avec M. Polydore Mbouyaï. Il y a des questions qui sont arrivées pour vous. Un auditeur anonyme, on respecte son anonymat, qui vient de nous appeler de Kinshasa. Il pose la question suivante. Là-bas, il réagit. Je cite. Monsieur Polydore Mbouyaï, vous êtes éditeur, responsable du journal Le Phare. Nous le savons bien. En toute vérité, pouvez-vous nous dire combien vous payez vos agents? Ça, c'est la première question. Il y en a d'autres. Êtes-vous sûr que cela soit suffisant pour survivre avec leur famille? Vous prenez des décisions, si on peut le dire, sans pour autant faire allusion aux réalités actuelles. Cet article 7 ne sera pas respecté de l'avis de cet auditeur si rien n'est arrangé. En parenthèse, si les journalistes ne sont pas correctement rémunérés. Fin de citation. Votre réponse, M. Polydore Mbouyaï?
Oui, effectivement, je suis l'éditeur du Phare. Mm. Ça, c'est exact. Mais quant à savoir combien les journalistes sont payés, que je sache, le salaire est un élément qui lie le travailleur à son entreprise ou à son employeur. Donc, on ne va pas nulle part à travers le monde, on arrive pour dire Monsieur X, il touche autant. Je ne pense pas qu'ici à Okapi, on va sur la place publique pour dire Walter touche autant, Monsieur Kalala, il touche autant, Nicole touche autant. Je ne pense pas. Donc, dans tous les systèmes, le salaire, c'est le secret de l'employeur et de l'employé. Ça, c'est un élément. Mm. Quant à savoir si ce qui est alloué est suffisant, mais je plongerai dans un mensonge que je ne pourrais pas soutenir, que de dire que ce qui est payé est suffisant. Parce qu'en fait, si on regarde l'environnement dans lequel évoluent les médias sur un plan général, je ne vois pas quel est ce média-là, congolais, qui pourrait générer suffisamment de moyens pour payer des gens comme il se doit. Donc ça, c'est une réalité connue de tout le monde. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est pour cette raison-là, dans les combats que nous menons, j'ai souligné tout à l'heure les efforts qui sont menés en direction de tous les partenaires des médias. Parce qu'en fait, il y a dans tous les pays ce qu'on appelle le régime de facilité, les aides directes et indirectes qui sont destinées aux médias pour cause de l'utilité publique des médias. Dans notre pays, ces aides sont prévues dans la loi. Mais curieusement, la loi n'a jamais été exécutée et, tenez-vous bien, cela remonte à 1981. C'est depuis 1981 que la loi n'a jamais été exécutée. La loi 96 a repris les mêmes dispositions. Elle n'a jamais été exécutée. Donc, si on veut aujourd'hui qu'il y ait suffisamment de moyens au niveau des médias, il faut que chacun fasse sa part du contrat. Pour revenir à l'auditeur de tout à l'heure, celui qui a envoyé la question, je peux lui renvoyer une question. La dernière fois où il a acheté un journal, ça remonte à quand? Qui sont les consommateurs de médias? Quel est le pouvoir d'achat des consommateurs de médias? Une chose est de demander au patron de presse, payer, 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 payer. Mais les moyens dont dispose le patron de presse viennent d'où? Un journal met à la disposition du public un produit. Quel journal? Ce produit doit être consommé. Les consommateurs sont connus, mais les consommateurs sont incapables de payer ces produits. Que voit-on sur le marché? Les mêmes qui envoient cette question-là, ils achètent les photocopies, ils n'achètent pas le journal. Les mêmes qui envoient cette question-là, ils louent le journal. Vous savez qu'il y a un phénomène terrible qui se passe dans la ville ici, c'est la location des journaux.
Comment expliquez-nous?
Oui, les gens sont dans un bureau, ils s'organisent avec les vendeurs à la criée. Chaque matin, on leur amène des journaux. Ils lisent calmement dans leur bureau. Le soir venu, ils remettent les journaux au petit vendeur et ils lui remettent une petite somme d'argent. Par exemple, vous savez, un journal aujourd'hui, il coûte 450 francs. Il donne 100 francs au petit vendeur. Et le petit vendeur, lui, il a entré dans ses frais. Il a touché 100 francs. Mais le matin, il ramène le journal qui a été pourtant lu par une dizaine, une vingtaine de personnes. Il le ramène comme un vendu. Voilà la situation. Que ce monsieur-là qui a envoyé la question, qu'il commence par payer son journal et non payer une photocopie. Qu'il commence par payer son journal et non louer le journal. En ce moment-là, il y aura des moyens qui auront été générés, qui auront été mis à la disposition des responsables des médias. Et c'est alors et alors seulement que ceux-ci, disposant de ces moyens-là, pourront les redistribuer. Un journal fonctionne avec de la publicité. Mais vous savez très bien dans quel état économique nous nous trouvons. La RDC est aujourd'hui un pays à économie informalisée. Mais dans un pays où l'économie est informalisée, la pub, elle va venir d'où? Il y a quelques publicités qui tombent ici et là. Lorsqu'on a étudié les médias, on devrait savoir que dans la composition de besoins des médias, vous retrouvez les trois quarts de revenus proviennent de la publicité. Or, la publicité n'existe pas. Les consommateurs à la criée passent leur temps à louer les journaux et à payer des photocopies. Et ce sont les mêmes qui viennent qui disent, monsieur, redistribuer quelque chose qui n'existe pas.
Voilà. On a compris. Merci. Très rapidement, en une minute, je vais lire les dernières réactions. Dominique Kanonga de Lubumbashi. Le métier de journalisme est comparable à une vocation. Les journalistes ont une obligation, celle de transmettre la vérité. Qu'ils soient bien payés ou pas, ils doivent transmettre les nouvelles. Il ne faut pas étouffer la vérité parce qu'on est mal rémunéré. Selon cet auditeur, ils doivent suivre à la lettre cet article 7 et carrément tout ce code. C'est sur le point de vue d'un auditeur. Et puis Guillaume Kabongo, toujours de Lubumbashi, il estime que ce code est arrivé au bon moment. Il pense qu'il n'y aura plus d'excuses pour les journalistes. Au moins, chacun sait ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas faire. Mais seulement, il faudrait qu'il y ait un suivi aussi pour cela et par rapport aux instituteurs de ce code. On me ramène d'autres réactions. Un anonyme. Alors, Kinshasa, je pense que c'est le même. Si vous n'êtes pas en mesure de bien payer vos agents, ne stipulez donc pas des articles pour défendre ou interdire le petit pain qu'on offre à vos agents. Aussi, si je disais que je suis un grand monsieur qui achète tous les jours les journaux, d'abord pour mon travail aussi, pour souci de s'informer. C'est apparemment le même auditeur, qui estime que lui achète son journal.
Je crois qu'il y a une mise au point importante.
Oui, oui, qui mérite d'être en quelques
faite.
Minutes.
Une mise au point importante qui mérite d'être faite.
Oui.
Le code est l'œuvre des professionnels des médias.
Ce n'est pas l'œuvre du Phare.
Le code n'est pas l'œuvre de l'éditeur du Phare ou d'un autre patron de presse, ce sont les journalistes congolais venus des quatre coins de la République qui ont pris conscience de la situation qui prévalait dans leur secteur et qui ont estimé qu'il était temps d'arrêter le gâchis. Ils ont fait ce travail et je pense que si quelqu'un consomme réellement les médias. Parce qu'une chose, c'est pas d'affirmer tel qu'on dit, là c'est facile de raconter des histoires au téléphone. Mmh. Hein? Une chose est d'affirmer ce que l'on dit, oui, mais la réalité peut être tout à fait l'envers. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est ceci. On ne peut pas donner l'impression de soutenir les médias tout en demandant aux médias de faire le contraire. On ne peut pas réclamer une presse responsable tout en encourageant des pratiques dérivantes. On ne peut, c'est un peu, je continuerai sur cette lancée-là, tout que je ne m'arrêterai pas, mais tout ce qu'il y a lieu de conclure, parce que je pense que là, malheureusement, l'émission elle-même risque de ne pas atteindre son objectif. L'essentiel ici...
On l'a suffisamment L'essentiel
ici est que les gens se rendent compte qu'il y a un effort interne qui est en train d'être mené.
Ça commence.
Et que cet effort-là, oui, est destiné à installer dans les mœurs, d'abord au sein de la profession, oui, non seulement le respect des règles, mais la pratique d'un journalisme responsable.
Très bien.
Et qu'à partir de ce journalisme responsable, nous pouvons, nous, non seulement en retrouvant notre crédibilité, nous redevenons des partenaires pour le gouvernement, les autres institutions. Et à partir de ce moment-là, nous pouvons obtenir un certain nombre de solutions aux questions que nous posons, notamment la dépénalisation, etc., etc.
Ce n'est qu'une première émission, M. Polydor Mouboyaï, par rapport à notre code. Je peux préciser pour les auditeurs que ce code a été adopté le 4 mars 2004 à Kinshasa, au centre catholique Nganda, par des représentants, des confrères venus de toutes les provinces de la République démocratique. Ils étaient 300. Précision détail. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous sur notre Bible. On n'en parle pas tous les jours, mais on peut se le dire une seule fois. Merci beaucoup. On va prendre... Merci d'être venu.
Ok, merci. On aura l'occasion de revenir parce que nous, comme nous faisons ce travail de vulgarisation du code, nous reviendrons ici à la radio Okapi.
Mais oui, tout le Congo vous a entendu, et le monde entier, parce qu'on est en direct sur Internet, en temps réel.
Nous reviendrons.
Merci beaucoup, Polydor Mouboyaï.
Merci.
Okapi, le Congo à l'écoute.